savait son emplacement. La coupe de Guémont a été fixée par, par la mairie, quoi, et le conseil municipal, en début janvier, quoi, et comme ça, ça se passait, la première marée, la deuxième, et on coupait du Guémont jusqu'au mois d'avril, quoi. Hein. Tandis que maintenant, bon, maintenant, tout a changé, les cultivateurs, ils coupent du Guémont, quoi, et c'est drôle, là. Je ne sais pas de quelle époque que ça date, mais c'est sûrement d'usage lointain ici dans le pays. Quoi.
Et les drobes, elles étaient réalisées à la Grande Grève du Sillon ou bien vers l'île Maudée ou ça?
C'était surtout dans la grève à l'intérieur du Sillon, quoi, et sur la Maudée, et sur les grèves de Pleignan qui sont entre le Sillon et la Maudée, quoi. Là, chacun avait son emplacement. Je ne sais pas de quelle date que ça datait, mais chacun respectait son emplacement, quoi.
Mais c'était toute une famille de cultivateurs qui allait pendant plusieurs jours, ou bien?
Mais c'est-à-dire une famille, chacun ayant son emplacement, parfois il y avait du monde. Comme il y avait beaucoup de personnes qui tenaient de la terre et qui faisait travailler, que les cultivateurs travaillaient ça, ils venaient leur donner un coup de main pour faire le tas de Guémont, quoi.
Et le tas de Guémont, il pouvait rester parce que ça durait plusieurs jours.
Oui.
Donc il restait sur place, il était lesté.
Il était lesté, oui.
Et les pierres, quoi.
Oui. Oui. Et pour bien faire, tu vois, il faudrait qu'il y ait un emplacement là, qui soit aménagé comme autrefois, qu'on puisse le faire voir aux gens. Ils comprendraient mieux, on peut expliquer les choses qu'on veut aux gens, mais qu'ils ne voient pas, ils ne comprennent pas de la même façon.
Comme vous avez fait tout à l'heure, là. Comme vous avez fait tout à l'heure.
Non, tout à l'heure, on a étalé les cordes et tout, c'est vrai, mais oui. Il n'y avait pas les cailloux autour, comme on avait autrefois. Quoi, hein.
Il y avait un cercle de cailloux, comment?
Il y avait un cercle de cailloux, oui. Et la charrette rentrait par chaque bout pour amener le Guémont pendant qu'on pouvait grimper sur le tas, quoi. Mais si ça durait 4 jours, pour la fin, ça ne pouvait plus grimper dessus, quoi.
Parce que tout à l'heure, on a vu que vous avanciez avec le courant, avec des perches, mais néanmoins, la Drôme, il y avait beaucoup dans l'eau, quoi. Combien est-ce qu'il y avait dans l'eau?
Bon, ben, tu sais, des fois, il n'y avait pas grand-chose dehors, hein, ça dépendait du Guémont, quoi. Hein. Ce Guémont-ci était encore bien flottant, quoi.
Et quel Guémont on utilisait, justement?
Oh, ben, tous les Guémonts de la Rive, hein.
Bawash
qu'on avait aujourd'hui en majorité, quoi, hein. Ouais. Il était bien flottant, quoi.
Il était bien flottant, hein.
Et on avait aussi mis un fût dans le milieu, quoi. Hein.
Et là, vous avez mis un fût dans le milieu aussi?
Oui, aujourd'hui, oui.
Ah.
Oui. Mais le fût se mettait dans le milieu seulement quand on faisait un tas d'un jour, quoi. Hein. Quand on faisait des drômes qui duraient 4 ou 5 jours, tu vois, il n'y avait pas de fût dans le milieu, hein. C'était assez tassé avec les cailloux qu'on mettait dessus. Ouais.
Et ces grandes perches, là, tu es le seul à encore avoir des grandes perches plombées comme ça.
Ben, je ne suis pas le seul, hein. C'est pas un privilège, ça. Hein.
Non, non, mais d'avoir conservé, quoi. Et quelle taille, quelle longueur elles font, ces perches, là?
7,50 m.
7,50 m.
Mesuré par André Lapatte, tu vois, sa fille avait un doctorat ou je ne sais quoi en fait. Alors, il est venu me voir, tu vois. Moi, le pauvre paysan, ben, je lui ai donné les renseignements qu'il fallait, quoi.
Elle est ferrée au bout, elle est plombée.
Ben oui. Sans ça, Guy, c'était pas plombé, mon vieux. Il est pas au fond, hein.
Elle est souple, hein, je voyais quand vous faisiez le mouvement, elle est très souple quand même, là. Non,
souple, pas spécialement.
Bon. Non.
Les perches que j'ai là, tu vois, elles ont eu 60 ans. C'est d'après-guerre. C'était des pins, du bois de Kerry, entre les Azet. Il y avait des vieilles perches à moi et mon père et quelques autres avaient acheté de là-bas, quoi. Hein. Et on met un bout d'orme, parce que l'orme est un peu plus lourd. On le met en bas pour que ça tire au mieux vers le fond.
D'accord.
Car il ne fallait pas, et puis il y avait la ferraille aussi, mais il fallait pas que. Il fallait que ça tire au fond. Ouais. Ces perches, tu vois, de 7,50 m là. J'ai vu ces perches là, quand on venait de mauder, et que le temps était mauvais, quand quand on traversait le pas de violon là-bas, mais ça touchait le fond, il te restait un mètre de bois en haut. Alors là, tu peux être sûr qu'il fallait des gars qui savaient percher. Hein. Parce que si le premier levait sa perche, le deuxième, il devait tenir en route d'enfonce. Hein. Ouais. Enfin, il n'y a pas eu de noyé, par chance. Enfin, moi, je n'ai pas vu coulure, moi, mais bon, avant. Qu'est-ce que tu veux, entre les deux guerres, là, et la guerre, mais il y avait du monde dans le pays, quoi.
Parce qu'on disait qu'il y avait même des trains de drômes, en fait. Enfin, il y avait des trains de drômes, il pouvait y avoir plusieurs drômes en même temps. Non.
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 Non, mais quand il y avait trop de drômes envoyés à la côte, tu vois, il n'y avait pas assez de pêcheurs. Alors, on envoyait une drôme le soir, on préparait celle du lendemain matin. Ceux qui avaient pêché la veille au soir, mais ils allaient pêcher le lendemain. Mais bon, quand ils avaient mis les cordages la veille, ils devaient encore mettre des cailloux dessus. Et le lendemain matin, avant la marée, les enlever. Et les gars, ils avaient réglé leur perche le dos. Hein.
Ah oui.
Ouais.
Et il ne fallait pas un bateau accompagnateur.
Si.
Il fallait un inscrit maritime sur un canote au coup.
Non. Il ne fallait pas être inscrit maritime.
Non.
Bon, il fallait quelqu'un quand même qui soit assez marin hein, pour se débrouiller. Quoi, hein.
Et les dernières drômes, c'est à quelle époque à peu près?
J'ai fait moi, c'est en 60.
En 60?
Oui.
Ouais. Jean Lenaire disait qu'il tirait avec son bateau des drômes qu'il allait faire aussi.
Oui, oui.
Ouais.
Oui, mais
je sais pas si Maurice est pas dans la salle, non? Non, son fils n'est pas là, non.
Mais la Grande Grève ici, tu vois, c'était oui. Différent de la police.
Mmh.
C'est pas le même truc. Quoi.
C'est-à-dire?
Mais tu te rends compte, quand il y avait des tas qui étaient à l'île Morée là-bas, qui devaient venir à la côte, il fallait d'abord qu'ils flottent à temps pour prendre le bon courant à un moment donné. Mais arrivé à un moment donné, il faut quand même traverser les courants adverses. Quoi, hein. Mais tu arrives à naviguer, tu connais quand il est question de monter mieux loin à un moment donné. Ah, ouais. Ben, on t'en va vers Sillon, quoi.
Absolument,
hein.
Oui.
Oui. Ah. L'État se faisait jusqu'à l'île Maudet, là.
Jusqu'à l'île Maudet. Je sais pas ouais. Si. Maudet, là, non Maudet Guillou. Il est reparti. Plus personne. Je sais pas si Maudet a fait de. Oui. Si Maudet a dû faire, hein.
Oui. Maudet a fait des tas de guémons, tu vois, mais comme à la mort, ici, si tu veux, un peu, il les faisait à la journée, quoi.
D'accord.
Son frère et lui, quoi. Mm. Il les faisait sur les rochers, là, où on ne pouvait pas aller à la charrette.
Arthur a dû faire aussi, hein, à la Roche Jaune, je ne sais pas s'il a fait. Arthur Raymond, est-il présent? Il est à, ouais. Il était déjà parti alors, hein, Arthur. Il nous racontait aussi qu'il faisait des drômes à l'île d'Air.
Oui, oui, mais c'est intéressant de savoir ce qu'on faisait ailleurs, quoi. Moi, je raconte le
bien sûr, non.
Secteur de la Maurie Fluvion entre le Sillon et Mandrieux, quoi. Hein.
Tout à fait, oui.
Ce qui se passait ailleurs, mais bon, c'est sûr que c'est nous qui avions la plus grande tourisme. Hein.
Je pense, oui.
T'as qu'à voir de la Maurie, là, les Maurie, les Lyon, tout ce qu'il y a là, vous voyez. Quoi, hein. Il y avait des endroits qui sont accessibles maintenant qui n'étaient pas d'antan. Hein.
Arthur me disait, Arthur Raymond, qui est de Beymelen, de la Roche Jaune, me disait tout à l'heure que. Et puis aussi un autre ami, Yves Montfort, me disait que les. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les gens de la rivière de Tréguier jusqu'à Maine-Noblance, en fait, jusqu'à. Non, un petit peu avant, jusqu'à la Corne, n'avaient pas le droit d'aller chercher le Louémont au-delà de la Corne. C'était les gars de Plougrescant, en fait, qui avaient le privilège d'aller aux îles d'Air, par exemple. Et en fait, après la guerre, les gens de la rivière de Tréguier sont venus avec un drapeau bleu-blanc-rouge et en disant bon, faut arrêter, quoi, la grève est à tout le monde. Et là, ils ont réussi à s'arranger pour que tout le monde ait accès à la. Comment dire, au Guémont qui poussait autour de l'île d'Air. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant.
Oui, d'une façon, mais dit, si on n'avait pas eu d'emplacement pour chacun, tout le monde aurait été à courir dans la grève.
C'est vrai.
Mais c'était un accord, tu vois, qui était respecté par tout le monde.
De
quelle époque ça datait et de qui mais c'était un truc qui était respecté. T'avais un ruisseau par exemple qui séparait deux emplacements T'avais un rocher qui le faisait aussi, ben bon, tout le monde connaissait ça. Toi, hein.
Ça, c'est ouais. Intéressant.
Ma génération, tu connaissais ça à peu près, mais ceux d'avant, tu sais, ils t'ont indiqué toutes les places de Guémon de la Nouée. Hein.
C'est-à-dire que chaque cultivateur, quelqu'un qui possédait une terre, avait son champ de Guémon, en fait,
ouais.
À la grève.
Oui, oui, oui.
C'est ça. Et on ne payait pas de taxes, il n'y avait pas de.
Rien, rien.
Les affaires maritimes ne venaient pas prendre
non,
les concessions stricoles, non.
Non. Moi, je crois que ceux qui faisaient du Guémon avaient assez de mérite.
Oui.
Il ne fallait pas encore. Et,
Alors, voilà une question que je me pose, c'est peut-être quelqu'un d'autre pourra répondre dans la salle aussi, c'est comment ça se fait que les communes, à un moment donné, ont arrêté de prendre des arrêtés municipaux pour dire bah, de telle date à telle date, on a le droit de couper. À Pleubian, à Lannemodet, ça se faisait régulièrement, et on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, plus d'arrêtés.
C'est-à-dire, dit, quand les cultivateurs n'ont plus fait de Guémon, ils n'avaient plus de sens.
D'accord. Tout simplement.
C'est la chimie,
les engrais.
Oui. Mais aujourd'hui, vous savez, au lieu de venir faire des Guémon cultivateurs, il y a été fini, quoi. Jusqu'à l'intériorité, ils ont du fumier, ils ont du lisier, donc ils ont du fumier avant. Et c'est encore moins coûteux que de faire du Guémon.
Bien, Pierre, je te remercie.
Je t'ai dit un
peu. Oui, oui, on va donner la parole
à... Il y a d'autres qui m'en parlent.
Si. Moi, je pense à Jean Quéran. Merci. Oui. La parole peut-être à un autre ancien qui n'est pas allé se coucher et merci de vous être resté parce qu'il n'est pas très tôt ma foi. C'est Jean Quérandrin. Alors si Jean veut bien venir.
Je viens accompagner.
Ah, accompagner, sûr. Tu parles breton et puis on traduit, d'accord?
Bonsoir tout le monde. Alors, il y a 82 ans, que j'ai connu la mer de la mort pluvial. Je suis venu ramasser, non, il y a 82 ans, we han via not pluvial. Wam dat de narwur, de diva gumum, ma dozang la ante. A loyi, scarp, a gaur bras. Om dat drie, nieuw weer schitter in de dood. Aan de boerde, de neer boerde aan de plek waar je hier niet noemt, de zaad aan de temmel, de kubbel, de gara, drie deze waren en de waren al. Nieuw glip wil de wal je dit dit me penden van doen. A yin will wa, the zad alati, chumai, a diva gumukim tadeh, tundi, me kigin wa, ma gwen tulba, and tulba ben gumun, a wane barber, lush. A ben wanaz, ben wa ayin the zad and dro, wa plick the grunge. The name listen here, a kumarinus. I'm going to not turn your eye. Well, the good ma gully, who I the mum, and I the wizards from the Olympic, the one to throw up. I be from the Olympic, the Russian rocket that go to your quarter, clag it, and but you're leading that the company got the squat and they drag it and they were barred the door and would you need to say a name who had been paid at us but I've been resisted my and I've met the door on who the idea door on the wood and the two last one the Maria's what the discipline thing be at the gear meant they were going to be enough sur tout le mois de mars. En fait, plus gros que Jésus. Bon, on est là en Rome, on a qu'à d'Alras, ou à Narron, à Théos, n'est-ce de l'autre, puis mon Pilos, et de Gabor, du Zbriyat, à Gouan Gourd, quand un Guillaume, ou à Bois et Dumas, de Volcan Casa, de Volcan de Droga Gourd, Ama, de Neu. Puis, à Idester, on est à Mim, me Zago, à Patati, à Idester, Chogin, ne plus Gourd, jamais, Tramantini, Steyer, à Gaï, Wan et diw i ddwy a sgynta, neu bynnag wna i podiw. Ag e, mi, e wan ni ddwm ddeg wan har diwya, dŵr di cymdeithyn, y gafet drew minas y zi ysgwadi, a ma rechyd ddwm trom diwyr cyn ni ni ddwstwma, cer mae'n sgen wadi wakar cap dy dehyd i ddeg wan nid. Maar ik heb een baan doen. Nu wil ik niet dat hij voor trouw was. Een menage, maar nu wil jij pleuren. En ik ben daar wat gehoest te doen. Voor de jaren niet die weer toe is. En dat Sabir die gaar goed is. En dat is het trip. Wat stappen die stagen niet. En wat is dat als.
Son père, le voyant dans cet état, lui a demandé de circule un peu mieux. Bon, il y avait une autre façon aussi de se réchauffer, les anciens connaissaient, c'est qu'ils emmenaient la mule. Enfin, lui, il était jeune, on ne devait sans doute pas oser lui donner trop de mule. Alors, une fois qu'il... Donc, il y a la dame qui travaillait à la ferme chez lui, qui, avec d'autres, qui venaient aussi pour couper le bois. Et donc, ces deux dames arrivent, et puis c'était un sabot de bois, hein, il n'y avait pas de... C'était un sabot de bois. Et donc, il y a une de ces dames qui a le sabot de bois, qui... Donc, il y avait un cercle pour maintenir le dessus du sabot de bois, hein, et pour adoucir aussi, parce que sinon, le bois... qui était nu avec de la paille, il fallait adoucir quand même ce contact du bois avec le pied. Et donc il y avait un truc là, pour adoucir ce contact. Et il y avait un fil de fer, et le fil de fer était cassé. Et puis la dame a demandé à Jean, qui était le plus jeune, et qui à l'époque aussi, donc, bon, même s'il travaillait beaucoup, était censé faire moins qu'une personne adulte, quoi, hein. Donc on adaptait le travail en capacité et de vos forces, quoi, hein. Et pour pas que cette dame surtout perde ce qu'elle pouvait faire, ou le rendement qu'elle pouvait faire, on lui a demandé à Jean de réparer ce sabot. Et Jean, il avait les mains qui étaient toutes gelées, imaginez, il était tout engourdi. Et il a quand même pris une pierre, et puis il a réussi à réparer le sabot. Hein. Et puis, voilà, quoi, hein, après, ils sont repartis avec leurs moumons jusqu'à chez eux. Ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, c'est que, bon, bah, il a grandi, Jean, et puis il tenait une ferme, donc son père produisait déjà pas mal de patates. Et la pomme de terre, si vous voulez, est beaucoup consommatrice de phosphate qui lui procure beaucoup de bien. Et il venait chercher du goémon. Le goémon qui était quand même un engrais réputé pour la production de pomme de terre. Et donc, à cette époque, les villages, il y avait... Jean faisait partie d'une grande ferme, si vous voulez, à l'époque, hein, où il y avait quand même 4 chevaux. Et tout autour, vous aviez ce qu'on appelle aussi des petites boutiques, hein, où il y avait quelquefois pas de chevaux, il y avait une vache, on élevait un cochon. Et ces gens-là gravitaient aussi autour de la grande ferme. Et puis, donc, quand il y avait des travaux à faire dans cette petite ferme, ben, on prenait le cheval de la grande ferme. Et ensuite, il rendait la monnaie en venant faire des corvées, et notamment la corvée, c'était venir faire du goémon. Donc, un jour, il y a un autre cultivateur qui demande de l'aide, et puis Jean est parti avec le cheval de chez lui, et une charrette, et puis ce monsieur-là avait l'habitude d'aller aux stères, alors que le père à Jean allait... Dresdner. Dresdner qui était quand même plus proche. Hein. Le Ster, fallait passer un ruisseau qui était plus dangereux. Quoi, hein. Donc, Jean a suivi. Hein. Il était chez ce monsieur, il travaillait et puis il est allé au Ster. Et donc, il revient avec sa charretée de goémon, son cheval, et puis là, il voit quelqu'un arriver. Qui lui n'avait pas trop l'habitude parce que apparemment c'est quelqu'un qui était venu habiter sur la commune de Pleubian il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la mère pour lui était quand même, il connaissait, mais il avait quand même une méconnaissance. Et vous savez, la mère, on entend ça tous les jours, ça ne pardonne pas. Ça, vous loupez, elle vous loupe pas. Et donc, il voit passer ce monsieur avec sa charrette et son cheval. Alors que la mère était déjà, elle montait. Les gens déjà étaient avec 2 chevaux. Il était monté sur le dos du cheval pour pas se mouiller. Hein, et puis et à un moment donné, il avait quand même un cheval des deux qui étant dans l'eau ne tirait pas bien, ne tirait pas droit, quoi. Hein. Donc il a fallu qu'il descende et puis qu'il se mette à bien tenir le cheval pour lui guider dans le chemin, dans le passage, mais avec de l'eau quand même à mi-hauteur. Hein. Et c'est là qu'il voit passer l'autre cultivateur qui descendait. Jean remontait déjà avec sa charretée, la mer était déjà bien commencé à monter, et l'autre allait austère. Alors il lui dit, t'es complètement fou, tu vas jamais passer, tu te rends compte, c'est dangereux, il faut faire demi-tour, tout. Et l'autre n'écoute pas. Il n'écoute pas, il charge quand même un peu de goémon là-bas, et puis il réussit à renverser la charrette. Alors il renverse la charrette, évidemment l'eau, la mer, si vous connaissez un petit peu, ça monte vite. Et on détache le premier cheval. Parce qu'il y avait souvent deux chevaux. Il y avait un cheval dans les limons là, de la charrette et puis l'autre qui tirait dedans. Et il détache le premier cheval qui, ayant de l'eau déjà jusqu'au ventre, s'en va non pas vers la terre, mais vers le large. Alors là, il y a des bateaux qui étaient déjà au port de Brestan aussi, qui est juste à côté, qui ont vécu la scène. Et qui l'ont vu, et donc ces bateaux, les pêcheurs sont tout de suite mis à l'eau parce qu'il y avait quand même, il y a toujours eu cette grande entente entre le pêcheur et l'agriculteur. Parce que souvent le pêcheur était aussi agriculteur. Et donc ils sont allés à l'eau et ils ont, avec les bateaux, donc ils ont fait revenir les chevaux vers la terre. Et le deuxième cheval, lui, ben, qui avait été plus ou moins abandonné, il s'est débattu. Hein. Il s'est débattu quand il a vu qu'il allait périr dans l'eau, il s'est débattu. Et il a réussi à casser des harnais tout neufs. Hein. Il les a cassés. Alors les gens étaient, évidemment, ceux qui étaient sortis avec leur charretée, ils regardaient la scène et ils voyaient ce cheval. Cette charpée de goémon, il voyait plein d'écume parce que le cheval se débattait, il y avait une écume terrible autour de cette charrette. Et donc les pêcheurs également, quand le cheval a pu se défaire de ses harnais, il est parti aussi vers le large et les pêcheurs ont réussi aussi à le ramener à terre. Et donc ils l'ont mis dans une petite ferme, juste en montant la côte ici, il y avait une petite ferme à côté. Hein. Et le cheval, il est resté là 8 jours. Il est resté là 8 jours avant de mourir, parce qu'il était écorché de partout, il était épuisé, tout ça. Et ces cultivateurs-là, qui descendaient tous les jours à la mer, s'arrêtaient tous les jours à l'écurie pour voir le cheval. Parce que c'était le respect pour les animaux. C'est terrible. Et voilà quoi. Voilà une histoire qu'a vécu Jean. Je vous remercie.
Merci Jean. Moi je me permettrais peut-être de demander à un petit intermède qui nous fasse aussi revivre un petit peu l'histoire de Catherine Le Pradec, si Philippe veut bien. Venir de la chanter. Merci, Fink. Alors, des gens comme Fink, nous en ferait des tonnes en nombre, parce que s'il y a quelqu'un qui a travaillé pour collecter un petit peu toute notre culture en breton, en trégor, hein, nos traditions orales, c'est bien Fink, et qui vient publier et éditer là. Je le dis parce que je sais qu'il est. Comment dire, c'est pas lui qui osera dire.
Je suis pas ici pour ça non plus.
Absolument, mais non, moi, tu as bien travaillé et des carnets de route, ma foi, c'est quand même un bien précieux pour nous tous. J'ai laissé le micro parce que. Moi, je sais pas chanter, toi, tu sais. Par contre, il y en a peut-être qui pourraient.
Peut-être juste avant, je racontais tout à l'heure une. Ça va, on m'entend ? Ouais. Non. Je parlais plus fort. J'aime pas les micros. Non, je disais tout à l'heure à Jean Do et puis à deux ou trois personnes. Moi, mon grand-père, il habitait Pleumeur-Gautier. Louis Troalec, Troalec Bien, j'ai goûté d'autant. Et il tenait une ferme à Kerwegan. C'est entre Pleumeur et Pleubian. Et il venait chercher du goémon, paraît-il aussi. Moi, je n'ai pas entendu cette histoire-là de sa part, puisqu'il est mort il y a 35 ans. Non, plus que ça, qu'est-ce que je dis, près de 50 ans. Mais mon père m'a dit que il a entendu son père raconter ça, qu'il partait le matin de très bonne heure avant le lever du soleil de Kerwegan avec un cheval, Gazek Limon, Gazek Tret, quoi. Et il venait ici au sillon chargé du goémon. Et il disait, il allait sur le sillon, il faisait un chargement. Il revenait au bout, au bout du sillon, là, près du bistrot. Il déchargeait son premier chargement. Il revenait, il en faisait un deuxième. Il le déchargeait pareil. Il allait chercher un troisième. Et là, quand il arrivait, il rechargeait les deux premiers avec des crocs dessus. On ne voyait plus la charrette dessous, paraît-il. Et il buvait un coup, un verre de café au bistrot, évidemment, avant de repartir. Et hop. Hein ? Il ne buvait pas un verre de café. Voilà. Enfin, ça, c'est une histoire de Goémon.
Moi, je te reprends, Yves, parce que ce qui est intéressant, c'est que. Avant la Révolution française, Pleumeur-Gautier, les Ardrieux étaient une trêve de Pleumeur-Gautier. Et Pleumeur-Gautier était plutôt, si je peux me permettre, rouge et les Ardrieux étaient d'autre côté. Et en fait, lorsque les Ardrieux a pris son autonomie, ça lui a permis en fait de priver du droit à la grève, en fait, du droit de couple, les gens de Pleumeur-Gautier, qui du coup n'avaient plus de rivage à la mer. Néanmoins, ton grand-père allait quand même au sillon.
Ben, alors j'ai entendu une histoire parce qu'on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, la première personne qui a intervenu,
Pierre Gallot,
qui disait qu'il y avait, enfin chacun avait son repère apparemment à la grève, il y avait un rocher ici, un ruisseau là, et mon père me disait aussi que le grand-père, quand ils allaient à la grève chercher, ils arrivaient de bonne heure avant le lever du soleil, ils mettaient un croc là à gauche, un croc à droite, ils restaient dormir en attendant la marée sans doute se retirer. Et ce qu'il y avait entre les deux, c'était pour eux.
Ah non. Là, c'était le goémon départ.
Ça, c'était le goémon départ.
Ça, c'était le goémon départ en hiver. Et les gens, au fur et à mesure que la mer montait, ils faisaient des petits tas aussi, pour marquer le goémon départ. Et il fallait rester regarder, justement. Et c'était les natifs du coin qui marquaient le goémon. Et les cultivateurs des terres venaient. Ils achetaient le goémon.
D'accord.
Et les gars, ils faisaient des charges, ils envoyaient tout le long depuis le bas du Sillon aussi jusqu'en haut, là-bas de la côte, il y avait des tas de goémons tout le long. Et les cultivateurs, pendant les grandes marées, quand il y avait le goémon, ils profitaient pour garder le goémon sur la route. Et après, pendant plusieurs jours, ils envoyaient le goémon qu'en plein heure, les arbres.
Jean-Brice, je ne sais pas si Jean-Brice est encore là, non ? Si, Jean, qu'est-ce que tu me disais l'autre jour à ce propos-là ? Pour les goémons. Les goémons d'épave que tu marquais au sillon.
Oui, c'est ça.
Jean. Viens là, viens.
Ah, mon barbeau, ça me donne un bonzon.
Jean-Brice qui perchait la Drôme tout à l'heure. Il est là ? Bon, il est peut-être parti. Enfin, Jean-Brice confirmait ce que disait Yves Cossard aussi.
Bon, moi je vais vous chanter une chanson. Alors, c'est une chanson qui raconte la triste histoire, sans doute d'une ancêtre, puisqu'elle s'appelait Catoïgan Troadec. Catherine Le Troidec. Et elle était de, enfin du coin ici de Pleubian, enfin on ne sait pas trop. Enfin, la chanson ne dit pas exactement d'où elle était, mais elle était du secteur. Et c'est le papier qu'on vous a transmis. La mise à part que la chanson que je vais vous chanter, moi c'est une, je l'ai entendu chanter avec Louise Le Gruyec, qui était de Trédarzec, qui habitait vraiment au bord de la rivière de Tréguier, et qui connaissait, enfin qui connaît toujours, puisqu'elle est toujours vivante, mais elle est arrivée, elle est en maison de retraite à Tréguier, et elle est née en...
96
ans. Ouais, 96 ans, ouais. Née en 1910, c'est ça?
Oui.
Et elle connaît plein de chansons, et donc elle m'avait chanté cette chanson-là. Et c'est donc l'histoire de Catherine Le Troidec, que son père, à qui son père demande d'aller ramasser, ramasser du goémon, couper du goémon à la grève. Et elle sent, elle devine, je ne sais pas, qu'elle va si elle y va, qu'elle va mourir, qu'elle va se noyer. Et elle dit à son père, enfin demande à son père de ne pas la laisser aller à la grève, de la laisser la garder à la maison, parce qu'elle sait que si elle va à la grève, elle va mourir. Et son père l'envoie quand même. Et donc la chanson raconte qu'effectivement, elle se noie. En fait, dans la chanson que chante Louise Gruyec, elle arrive à Haute-Vras-Kervingui. Donc la grève de Kervingui à Pleubian. Et là, il y avait quelqu'un avec un bateau. Enfin, elle devait aller sur un bateau qui était neuf. Puis bon, souvent, c'était le présage n'était pas très bon. Elle est sur des bateaux neufs. Bon, ça arrive souvent dans les chansons, les histoires. Et elle lui dit, moi, j'irai pas dans le bateau, etc. J'irai pas dans le bateau avec vous. Et elle, bon, elle va quand même, parce que son père lui avait demandé d'y aller. Elle y va. Et Et Rorgroise, je ne sais pas où c'est ça, mais c'est sans doute dans la grève quelque part. Le bateau chavire à un moment. Elle demande au capitaine, elle lui dit amenez les voiles, parce qu'elle sent que le vent va. Hein. Et le capitaine dit hop, laisse tomber. Et il garde les voiles, et le bateau chiboute. Et voilà la triste histoire de Catherine Le Troidec. Ma carche à l'emmenant, trois nec béant, em se digon, à baguiline, wa que bedi ver Catherine. Ma carche béant, em se dibour, à guillonion, ne n'a que rin que can gomon. À l'emmenant, trois dégueliri, baradivuga, les pindrori, dalle de baram, yon dalle de baram. Aguette de nom de Romona. Catoïdien 3 de Galéry. Dis à Dikpour à Ganazi. Mais à Dikpour, mais il m'a de Romona n'aim his vodka. Car me rallon ni de l'ardi. Ma gant de nom de vie. Ma rende l'ordre, mais il bat la vie. La rue calon, mi en vel macaro. D'un romona, rui à yello. Me roir vend mi en, me roir vraséant. Un rabot plat de notre vras de romona. Catoïen trois, de guéliri. Haute kervingui, pas disqueni. Ninque des meilleurs barzer vagne oui man, rien du dieu en zoman. Ninque des meilleurs barzer vagne oui zé, rien du dieu en zoman zé. Un capitaine bang l'avari, d'un gâteau y gagan zé. D'un que des miens en sort de langage zé. Un noir de gongiste rasé, quand on met en dans son béant joyeux sagué. Catoyen trois des galeries, il rend grâce panarié. Capitaine Vag, me yamine d'Oquilio, Pihar Vag, ni oui, wari, guino. Capitaine Vag, l'avare, de gatoï, gaganosé. D'un que des miangs en sort langage, c'est un noir de gongiste rasé. Quand on met en dans son béant joyeux sa guerre. Wak ligir parachuan, er vagne wiz o chaviran, katoïen troan exoben, haut vras pleuvian triwer gouran, e ou kat katoïen troaden, onz oa fleuren un ol veren.
Pour les gens qui n'ont pas entendu, je vais donc répéter qu'au départ, les algues, les laminaires surtout, pratiquement les laminaires, étaient utilisés pour extraire de l'iode. Donc au départ, on brûlait les algues, on extrayait le pain de soude, les soudes étaient retraités après pour en extraire de l'iode, la teinture d'iode. Ils prenaient ça dans les petits cabanons qui étaient faits tout le long du sillon, il y avait une dizaine de cabanons, et quand il y avait suffisamment de pain de soude, ils vendaient ça à l'industriel qui venait acheter ça. Puis Après, ça s'est transformé, alors ça s'est agrandi, et ils ont construit des fours des fours plus conséquents, qui étaient rémunérés aussi pareil. Puis donc, un particulier achetait des algues au gaumonier, il les faisait brûler, et lorsqu'il y avait suffisamment de pain dessous, d'un tonnage suffisant, il faisait venir un bateau qui échouait à l'île Blanche. Maintenant, l'île Blanche est pratiquement coupée dans le sillon, et il chargeait les pains dessous qui étaient expédiés à Cherbourg. Et du côté de Cherbourg, il y avait une usine qui transformait ces pains de soude en iode. C'était ça la première. Ouais.
Et si vous allez voir, je fais de la publicité en même temps, l'exposition sur Louis-Marie Frodac au Chardon Bleu à la salle polyvalente de l'Armor, on voit des dessins, des gravures de Louis-Marie Frodac de la fin du 19e siècle, et on voit d'une part le sillon couvert de meules de Goémon, bien sûr, il y a des fours, et y compris des meules jusqu'à l'île Blanche, c'est ce qui m'a surpris. Et au milieu du sillon, à un moment donné, on voit une maison avec une cheminée. Et il semblerait, c'est ce que disait M. le Breton, que c'était une cabane de douaniers, quoi. Ce qui est possible.
Je vais en parler à mon oncle demain, je vais lui poser la question, mais je ne sais pas s'il se rappelle de ça.
Ce sera intéressant.
Mais des meules de Goémon, ça a existé. Dans mon âge, même après mon âge, je me rappelle de voir des meules de Goémon qui étaient faites là sur le sillon. Et on faisait des tas de galets, on mettait les meules de Goémon et puis c'était revendu après aux agriculteurs qui venaient acheter ça. Carrément, ou bien c'était revendu aux usines, parce qu'après avoir fait sécher, pour faire des farines d'algues. Au départ, c'était des farines d'algues. Et après, ça a été l'alginate au bout d'environ de 1940, 50, qu'on a commencé à faire des. Oui, 40, 50, qu'on a commencé à faire des alginates, tu vois.
Mais il y avait un hangar en bois, une cabane en bois qui était au niveau du Chardon Bleu, je crois, où ils rangeaient leurs outils.
C'est là qu'était installé le four, je crois. C'est là qu'était installé le four. Il y avait le four dans lequel ils faisaient donc tous les laminaires qu'ils achetaient, et ensuite ils respectaient.
Mais il y avait des fours à l'air libre aussi.
Au départ, c'était à l'air libre. Et après, justement, ça a été tout concentré dans les hangars.
En 1840, il y a un industriel qui s'appelait Chauvel, c'est Francis Guillot qui me racontait ça. Il avait dû trouver aussi dans les archives. Et qui avait il avait employé beaucoup de gens, il avait installé beaucoup de fours à Goémon sur le sillon. Et comme c'était un industriel qui venait s'approprier en fait un lieu qui appartenait aux gens du pays, tout le monde s'est plaint de la fumée âcre qui polluait, qui apportait des maladies, etc. Pour faire en sorte que ce gars-là, on le chasse, quoi. Et la municipalité en fait a réussi en fait à faire partir ce gars qui s'est approprié l'ensemble du site. Alors qu'autrefois, avant, c'était les gens du pays qui faisaient leur four, quoi. C'est intéressant, je trouve, ce mode de... La façon aussi dont la commune pouvait légiférer et puis avait un pouvoir aussi sur son territoire et comme on le disait tout à l'heure, aussi au niveau de la coupe et des champs d'algues, quoi. Ça, je trouve que c'est pertinent. Yves, toi, tu étais contremaître à l'usine ou...
Non.
Et qu'est-ce que fabriquait l'usine en fait de Penland quand tu y travaillais, toi, dans les années 60, 70?
Oui, dans les années 60.
Qu'est-ce que faisait l'usine à cette époque-là?
Surtout, pratiquement des alginates.
Que les alginates.
Des alginates.
Et est-ce que l'usine prenait les lichens?
Ils prenaient des lichens, mais ils ne les traitaient pas, ils les expédiaient dans le Finistère.
Ah, ils les expédiaient en Finistère, oui.
Pendant la guerre, je crois que les Framatons, ils avaient transformé le lichen en genre d'huile, qu'ils avaient appelé une salador, mais ça n'a pas marché, ça n'avait pas été un bout d'entraînement. Et après, ça a servi à faire des judifiants pour les...
Oui, bien sûr.
Mais on ne traitait pas l'usine. L'usine ne traitait que les dalles.
Et l'usine, je pose la question pour les gens qui ne seraient peut-être pas, hein, puis même moi, employé combien de personnes dans ces années-là?
J'ai vu sur la revue, c'était 130. Moi, quand je suis rentré en 61, c'était 120 personnes qui en avaient pas d'usine.
120 personnes quand même.
Ah, c'est
important. Hein.
Il y avait déjà du personnel de bureau, j'avais recensé, il y avait une trentaine de personnels entre le bureau et le laboratoire.
Ah oui.
Et...
Comment est-ce que c'est important?
Bref, j'ai commencé à travailler à l'usine dans les années 60, on était environ 120 personnes. Entre le laboratoire et les bureaux. Et dans les bureaux, déjà, il y avait, je ne sais pas moi, une dizaine de personnes, secrétaires, comptables. Dans les laboratoires, il y avait 5-6 personnes aussi. Il y avait l'ingénieur chimiste, il y avait des préparateurs, des chimistes. Et alors, pour faire tourner l'usine, il y avait 3 équipes les équipes tournaient à 3 buts, les 3 équipes. Et dans les équipes, quand tout était fait à la main, quand j'ai commencé, il y avait plein de monde. Je vais vous expliquer la fabrication, si ça vous intéresse, des alginates, comment on procédait. Donc les algues étaient récoltées, livrées à l'usine. On les lavait dans des bains d'eau acidulée. C'est pour ça, je me demandais si ça polluait plus ou moins. Ça devait polluer parce que les galets, les gens qui mon âge qui ont vu ça, les galets à la sortie de l'usine, ils étaient tout blancs. Il n'y avait pas une algue qui traînait le long du quai qui était actuellement à l'usine. Ça polluait. On lavait les algues à l'acide sulfurique. Une fois lavé les algues, extrait tous les sels minéraux qui l'enveloppaient. On leur faisait subir une nouvelle transformation. Avec du carbonate de soude, on faisait macérer les algues pour séparer la cellulose de la gine. Une fois émulsionné, on précipitait à l'acide sulfurique, ça donnait un acide alginique qui était une consistance pasteuse, un peu comme de la mousse, mais plus épais. On poussait ça à la main, parce que tout était fait à la main au départ, le brassage des cuves. Après, ça a été fait avec des machines, c'est pour ça que le personnel a diminué rapidement. Et l'acide précipité était transformé en acide alginique. Remalaxé avec du carbonate de soude, d'ammoniac selon la destination, on en faisait des alginates. Alors des alginates, ça servait dans la pression textile, dans les cosmétiques, dans les peintures, dans l'alimentation un peu aussi, comme j'ai dit, le consistant. Ouais, c'est la propriété.
Et qui fournissait les algues à l'usine alors? Des bateaux, les goémoniaquiers?
La majorité des algues, les laminaires étaient récoltés par les goémoniers. Les goémoniers venaient du Finistère, parce que y a pratiquement tous les goémoniers qui ont travaillé à l'usine venaient du Finistère, et les bateaux étaient fournis par l'usine. Il y avait des sloops qui marchaient à la voile, et après ils ont mis des moteurs de voitures, de camions, parce qu'il n'y avait pas de moteur de bateau à cette époque-là, ou bien ça n'existait pas des moteurs pour ce modèle de bateau. Et donc les gars venaient par... Il y a une dizaine de goémoniers qui venaient du Finistère, de la région de... Pougarneau. Oui, d'ailleurs, il y a des gars qui sont mariés dans le coin, les frères Tanguy, leurs parents sont natifs du Finistère. Ils dormaient, comme on disait tout à l'heure sur la revue, ils dormaient dans un dortoir sur des matelas d'algues sèches, parce que des matelas d'algues sèches, et donc ils partaient en mer. Mais alors, c'était pas le miséralisme. On a vu un peu dans l'émission, les gens ils travaillaient, ils traînaient les algues. Donc déjà, quand j'ai connu moi ça, ils avaient des filets à bord des bateaux. Et quand les bateaux arrivaient à quai, il y avait une grue au bout du quai de l'usine qui enlevait les filets d'algues et les ramenait dans l'usine. Et à deux goémoniers, comme ça, ils faisaient environ 5 tonnes d'algues par bateau.
Et ils pêchaient avec quoi? Avec la guillotine?
Au départ, le premier, c'était avec le scoubidou à main. Mais là, ils faisaient pratiquement rien. Le scoubidou à main, ils tournaient à la main. D'accord. Après, on a vu, j'avais une dalle, une faucille dans ma voiture, là. On a vu aussi dans l'émission, là, j'en ai gardé, j'ai un modèle dans ma voiture. C'était une grande faucille qui faisait, je ne sais pas moi, cette taille à peu près. Vous voyez, ça faisait une faucille comme ça. Et ils mettaient ça sur des manches en pichepin qui allaient de 3 mètres à 6 mètres.
Vous en avez une derrière,
Pour la faucille. Ouais, ben exactement ça. Là, on ne le voit pas. C'est exactement ça. Vous allez voir.
Ça
passe pas.
On n'en verra pas.
Ouais. Ah ouais. C'est plus pratique quand on le voit. Vous voyez la faucille, c'est avec ça qu'ils travaillaient. Alors au début de la marée, comme il y avait beaucoup d'eau, ils prenaient un manche de 5-6 mètres. Et ils bouillaient le bateau, les algues automatiquement ils s'alignaient dans le sens du courant. Avec la faucille, ils coupaient au pied de l'algue, mais il fallait faire vite. En coupant au pied de l'algue, il fallait qu'ils ramènent la faucille 1,50 m, 2 mètres avant, parce que les algues faisaient 3-4 mètres. Et sur la faucille, les algues se chevauchaient sur la faucille. Ils les remontaient à bord. Alors, plus le niveau d'eau descendait, parce qu'à marée basse, il y avait 1,50 m, 2 mètres, mais il fallait quand même la hauteur du bateau, il fallait à chaque fois remonter les algues dans le bateau. Après, on est passé carrément Et c'était là, au Scooby-Doo. Là, ça a tout changé, hein, à partir du moment qu'il y avait le système hydraulique, le vérin, je ne sais pas si les gens l'ont vu à l'émission, on voit les bateaux qui viennent là encore, qui déchargent à Treillé actuellement, et là, c'était le rêve, quoi. Mais pour en revenir au Guémonier qui venait du Finistère, eux, ils en bavaient, hein, ils faisaient la saison comme les gars vont faire la vigne ici actuellement, les gars venaient faire la saison des algues à Pouillon, quoi. Mais alors, c'était pas misérable non plus, parce qu'ils rigolaient bien, et puis... Je vous dis, 120 brouillés, ça faisait tourner, il y avait les marins en plus du coin. J'ai recensé, parce qu'on dit que les jeunes, ils font la fête maintenant. Mais pour faire la fête, maintenant, ils ont du mal à l'Armor, parce qu'il n'y a plus de bistrot. Calculez, il y a un bistrot à l'Armor. Quand l'usine marchait à fond, je crois qu'il y avait 12 bistrots de l'Armor, de Léon Rose, à la presqu'île. J'ai recensé les 12 bistrots marqués. Je crois que c'est pas mal. C'est 12 bistrots qu'il y avait, il faut que ça marche. J'avais noté une anecdote là, je voulais vous raconter parce que Guy m'a demandé de préparer un peu de quelque chose. Ce truc. Ah, non, mais là, ça y est, ça me revient à l'anecdote. Je voulais vous raconter une anecdote aussi, mais ça n'a rien à voir avec l'usine, la fabrication des jacques. C'était uniquement pour vous expliquer la circulation quand on allait travailler à l'usine. On a fait voir le renforcement du sillon, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Quand on travaillait à l'usine par grande marée, comme maintenant, on arrivait au rond-point de Landrose, je ne sais pas si vous le situez, si vous avez été au SEVA, on arrivait au rond-point de Landrose, et par grande marée, il ne fallait pas se faire surprendre si on allait trop vite, parce que la mer était sur la place. Et traversait le long de toutes les maisons de Landrose. Et les propriétaires étaient obligés de sortir des plaques de bois, ou bien ils allaient prendre des boutons, dans la grève, on découpait des carrés de vase qu'on mettait le long des murets, le long des portes pour empêcher la mer de rentrer dans les jardins et dans les maisons. Et bon, le mur a été construit, j'ai dû raconter ça là d'ailleurs, en allant au boulot un jour, je lui dis, c'était pas possible, il est obligé de laisser la voiture, le scooter au rond-point. Puis j'arrive à l'usine, mais je dis, si un jour on a un accident, comment que ça va se passer ça, on va pouvoir, ou bien s'il y a le feu à l'usine. Alors j'appelle l'adjoint au maire, à cette époque-là c'était M. Henri, les anciens se rappellent, et je lui dis, il y a le feu à l'usine. Oh, il dit, il faut appeler les pompiers. Il dit, c'est ce qu'on a fait, mais il dit, ils sont bloqués. Il arrive, il vient voir, il n'y a pas le feu. Ben, il dit, non, mais si ça arrive, si on a un accident, comment que ça se passe? Il dit, toutes les maisons, on ne peut plus les sauver, les pompiers ne peuvent pas passer. Ils ont décidé de créer le muret qui part depuis ce rond-point-là jusqu'à l'usine. Comment ?
Quelle année ?
Je ne me rappelle pas.
Tu ne te rappelles pas
non plus. Non, je ne me rappelle pas non plus. On était dans les années 80. Non, avant, l'usine a fermé en 80, 70 peut-être. 70. Enfin bref, le mur a été créé et puis comme il n'était pas.
C'est pas
sûr, tout le monde avait appelé le mur de la Ronde. On appelle comme ça le mur de la Ronde d'ailleurs. Mais le mur de la Ronde, il arrivait juste depuis et puis il a rendu bien le service. Oui. Ce n'est qu'une anecdote, entre autres, mais je veux dire que... Et depuis, je vois qu'ils ont commencé à renforcer la plage, le sillon, la petite grève ici, depuis la Mose, aussi, avec des blocs. Je me demande s'il n'aurait pas mieux fait de refaire quelque chose aussi avec les trucs de la mer, que les feuilles puissent pousser, parce que là, c'est vraiment artificiel. Et on a vu les résultats, ce que ça a donné au sillon, les constructions, c'est pas évident. Hein. Mais si vous avez des questions à vous poser, moi, je vois pas quelque chose concernant l'usine, la fabrication... Je peux vous répondre, autrement je ne peux pas vous inventer.
Et les produits que vous utilisiez, ça ne vous abîmait pas les mains ?
Pardon ?
Les produits que vous utilisiez, ça n'abîmait pas les mains ? La soude et tout ça
Non, je ne me rappelle pas. On avait vu les gens blessés. Non.
C'était toujours des produits toxiques,
toujours ? Je vous dis, on utilisait l'acide sulfurique. L'acide sulfurique serait très bien pu vitrer, mais comme c'était dilué à partir des cuivres en inox, c'est qu'il y avait un tuyau. C'était dissous tout de suite. Hein. C'était dissous à 5-10% à peu près. Donc là, c'était plus dangereux. Hein. Il y a la rigueur, mais les mains, non, le carbonate de soude en plus. Après, ce n'était pas toxique. Donc c'était toxique peut-être, mais ce n'était pas dangereux. Non, oh, ben, encore une anecdote. Vous savez que les gars qui travaillaient à Yod, le père Antoine, tout ça, qui travaillaient avec M. Richard, quand ils avaient bien travaillé et qu'ils avaient fait un rendement conséquent, en prime, ils avaient droit à une caisse de pinard. C'était la prime de Paris, c'était pas la une pelle, c'était pas la caselle, c'était la caisse de pinard. C'était pas la prime. Tu te rappelles? Bah, c'est pour dire, c'est pour ça que ça dégradait tout le monde. L'acide sulfurique était rejeté à la mer, tout le monde. Mais dilué alors, à 5%. C'était dilué, mais c'était.
Quand même,
on en parlait, on dit les coquillages qu'on mangeait. On n'a pas connu de maladie pire que maintenant.
Vous allez aux coques, quoi.
On allait aux coques, oui, c'est ça. On les mangeait aussi, mais on a. Vous savez, on a fait des essais, là, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais après le Scooby-Doo, pas après le Scooby-Doo, avant le Scooby-Doo, on a essayé de ramasser des algues en plongée. C'était la méthode pour moi la plus écologique qui ait pu exister, ça aurait dû le faire. Mais seulement ça coûtait trop cher. Il fallait un patron à bord, un matelot et deux plongeurs. Et les gars, ils plongeaient sous l'eau, ils avaient une suceuse, et un peu comme le principe des bateaux qui ramassent le marbre. Ils pompaient les algues à bord, il y avait un grillage au fond du bateau, et les algues, les aménières restaient dans le bateau. C'était une solution économique, bien sûr, mais seulement, parce que maintenant, les Scooby-Doo, c'est rentable, ça travaille bien, mais seulement, quand vous aviez une traînée de Scooby-Doo, quand le gars, il a mis son ancre et qu'il a essayé de descendre pour ramasser les algues, ben, il y a des rochers qui sont arrachés au fond de la mer, des rochers qui vont jusqu'à 20-30 kilos. Hein. Et alors les gars, ils ont aussi à bord, ils les coupent, ils les rejettent bien sûr à l'eau. Mais ça ne peut pas dire que le fond de la mer est quand même tellement respecté. Quoi. Or, un coupeur à la main, comme c'était fait, mais ça coûtait trop cher. Donc, c'est une question de rendement.
Le tire-bouchon trégorois, alors, c'était quoi alors?
Comment?
Le tire-bouchon trégorois.
Le tire-bouchon trégorois, c'était avant le Scooby-Doo, mais ça c'était encore avant la saucisse. Hein. C'était avant la saucisse. Ça, c'était l'époque de mon grand-père.
Il avait appris vous parler.
C'est un prototype du Scooby-Doo. Ils ont fait le Scooby-Doo d'après ça. Mais ça tournait à la main. Quoi. Il y avait une ferraille pour prendre des petits chevaux qui tournaient à la main quand même.
Alors parce que comme nos jeunes goémoniers à pied sont partis là, puisqu'il y a grande marée demain, ils travaillent. On va peut-être donner la parole, c'est peut-être intéressant s'il y a un témoignage de gens aussi jeunes, si je peux me permettre, qui se lancent aussi dans la culture d'algues aujourd'hui. C'est aussi une alternative peut-être aussi au Scooby-Doo professionnel. Si les gens, les représentants de la société Aléor veulent bien venir nous parler un petit peu de leur métier aujourd'hui, et se faire connaître.
Tu prends un micro,
hein. Bon, comme tu veux,
Bonsoir. D'abord, je voulais dire que je suis très content et très honoré d'être là aujourd'hui. Parce que c'est vrai que nous, la société Aléor, on est en train de développer la culture de l'algue dans le Ferrara. Donc sur des techniques qui sont connues depuis longtemps mais qui sont peu appliquées ici. Et de voir qu'on s'inscrit dans toute cette tradition. On vous voit tous, toute cette histoire de goémonerie, toute cette histoire que je connais trop mal et que je suis très content d'entendre aujourd'hui sur ce qu'on faisait, les usines, le coin, la presqu'île, qui a toujours une histoire en fait autour des algues. Et de voir qu'aujourd'hui et cette année, pour la première fois, on est capable de faire une journée autour des algues et de réunir tous ces professionnels, toute cette mémoire locale autour de cette matière, c'est assez touchant. D'autant plus que moi je suis pas breton, alors je suis désolé. Je suis pas directement breton. En fait, mon grand-père est né à Tintignac, donc on était quand même un petit peu breton, mais après ils sont partis. Voilà, je suis breton, ça va? Bon, merci. Mais après ils ont immigré vers la Bourgogne, donc j'ai une culture bourguignonne. Ça va aussi? Bon, ça va, alors très bien. Je suis adopté? C'est une vraie question. Et je suis biologiste de formation. Et j'ai une passion des algues depuis un certain temps et toujours voulu revenir en France parce que c'est un pays que je connaissais pas ou trop peu. Mais en tout cas, j'ai eu cette vocation de travailler cette matière extraordinaire que sont les algues. Et donc, avec deux associés, j'ai d'abord fait un petit sondage rapide parce qu'on a eu la chance d'avoir pas mal d'articles récemment à la télé, journal, radio. Combien de personnes en ont entendu parler? D'accord. Bon, ben, ça va alors, c'était un conquis alors. La culture des algues, voilà, exactement. Donc en fait, on a commencé le projet il y a un an maintenant. Et on a fait une première année de test dans le ferma. Et la technique, c'est simplement de dire les algues, il y en a. On a un site ici qui est extraordinaire. Il faut savoir que moi j'ai voyagé un petit peu au Japon et le site ici est reconnu comme le 5e site au monde le plus favorable pour les algues. Et c'est pas un hasard, c'est qu'ici on a une circulation d'eau, on a une qualité d'eau qui est exceptionnelle, on a un ensoleillement qui est exceptionnel et on a une diversité biologique qui est exceptionnelle aussi. Et ces trois facteurs-là font que la région se positionne au 5e rang mondial pour la possibilité en tout cas de cultiver des algues. Donc on est venu ici, ça fait un an maintenant qu'on fait un test dans le ferra. Vous avez peut-être vu les bouées jaunes, au moins les plaisanciers ou les pêcheurs. On se les a fait couper d'ailleurs une fois par les pêcheurs. Ouais. Mais ça va mieux depuis, je vous rassure, tout va bien. Et donc le but c'est de cultiver les algues. Alors ça peut paraître saugrenu parce que les algues il y en a partout autour, alors pourquoi les cultiver? Vous le voyez ici, les algues ont énormément d'applications possibles, on a parlé donc des applications historiques. Il y a aussi toutes les applications, on va dire, un petit peu plus modernes qui sont de faire rentrer cette matière organique dans les processus industriels, dans l'alimentaire, dans la cosmétique, dans les matériaux aussi. Il y a quelques échantillons ici de fibres qui sont faits à partir d'algues, il y a des plastiques qui sont faits à partir d'algues, mais l'exigence de ces industries-là veut des algues d'une pureté absolue. Et on parlait des Scooby-Doo tout à l'heure, effectivement les Scooby-Doo remontent des cailloux. Et moi j'ai même entendu 400 kg hein, par un goémonier, c'est-à-dire qu'ils peuvent remonter des cailloux jusqu'à 400 kg. Donc ça fait du dégât au fond, mais surtout la matière première qui en ressort n'est pas forcément possible à intégrer dans un processus industriel. Donc notre idée, on est trois, alors les deux autres ne sont pas là, je vais les représenter. Donc j'ai James Amos, que vous devez connaître, qui est un enfant de Paimpol, qui travaille à BAI, et Jean-Yves de Chêne-Martin, qui est un enfant moitié de Paimpol, on va dire. Et qui travaille avec moi sur ce projet-là. Et donc depuis un an, on fait un test de culture sur filière, c'est-à-dire qu'on insémine des algues sur des gouttes qu'on met en mer, on n'intervient pas du tout sur le milieu c'est une culture totalement naturelle, et au bout de 3, 4, 5 mois de grossissement selon l'espèce d'algue, on récupère cette matière première qui est propre, puisqu'elle ne touche pas le fond, elle n'est pas en contact avec le gravier, avec le sable, et ça nous permet de fournir aux industriels de la cosmétique et, on espère, de l'alimentaire, une matière première qui est facile pour eux à travailler. Alors, c'est pour moi, c'est fort de pouvoir vous rencontrer, parce que c'est vrai que moi j'ai eu un cursus biologique, j'ai eu l'approche par la matière, et je suis arrivé dans un pays que je connaissais peu, avec toute cette histoire autour de l'algue, qui est une histoire très forte, et je suis ravi de pouvoir voir aujourd'hui qu'il y a il y a une vraie communauté où on est capable de se réunir, de monter cette drôme, de voir tout ça. Et c'est pas un hasard. Voilà. Notre projet, ça va prendre forme cet hiver à Les Ardrieux, avec la construction, alors c'est pas une usine, on appelle ça un atelier, où on va pouvoir traiter ces algues. Alors traiter, c'est très simple, hein, c'est simplement les récupérer, les passer à l'eau, parce qu'il y a certains industriels qui ont besoin d'algues dessalées. Les déshydrater s'il est besoin, comme dans l'alimentaire, où il vaut mieux une algue déshydratée pour le travail, et ensuite les conditionner pour les envoyer. Voilà. Que dire d'autre?
De quelle manière vous les récupérez?
Alors on les récupère elles poussent sur des filières, c'est un but.
Voilà. On connaît les filières. Hein.
Voilà. Et on a un petit treuil sur un bateau, et on racle, en fait, très simplement le bout. C'est des filières horizontales. À la différence, on a testé deux systèmes, c'est soit les filières verticales, c'est des suspentes, on a une filière comme les moules, exactement la même chose, avec des suspentes verticales. Le problème est qu'avec le courant qu'on a dans le ferrasse et les algues de dérive, voilà, exactement, c'est très mélangé, donc on arrive à... Puis en plus, avec les sargasses par exemple, qui sont très coriaces, ça a tendance à racler les suspentes. Voilà. En revanche, avec les filières horizontales, on a de très bons résultats et on lève simplement la filière sur le bord d'un bateau et puis on les racle, on récupère tout dans le bateau, on met ça dans des big bags, exactement la même chose que pour les pommes de terre, et puis on livre ça chez nos clients, pour les clients qui veulent des produits frais. Notre premier client, c'est la SECMA, qui est à Pontrieux, voilà, qui utilise ça pour extraire des molécules pour la cosmétique essentiellement. Ou bien on les rapportera quand on aura l'atelier, dans l'atelier, pour les déshydrater et les conditionner, essentiellement pour l'alimentaire. Voilà.
Ah,
plus alimentaire, que ce soit humain ou animal d'ailleurs.
Alors, quelles sont ces algues alors?
Quelles algues? Alors, on travaille qu'avec des algues locales. Il y a eu de mauvaises expériences dans le passé sur des espèces non autochtones. Il y a eu le wakame qui a été introduit un petit peu. Fundaria pinatifida, je crois le nom exact, qui a fait peur parce que c'était une algue qui était. C'était pas une algue locale, elle est arrivée, elle s'est répandue de manière exponentielle dans le milieu. Bon. La biologie, la mer, tout ça c'est très bien fait, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un certain nombre d'années, les espèces trouvent leur vie. La sargasse c'est pareil, c'est pas une espèce locale. Hein. Bon, il y a la Méditerranée en ce moment qui est en train de vivre un petit peu la même histoire avec la taxifolia et cette petite algue verte qui ravage tout. On est sûr, en tant que. Enfin, les biologistes sont sûrs que à une échelle de 10-20 ans, ça va s'équilibrer parce qu'il y a toujours. Il y a toujours un. Alors, on est en train de découvrir qu'il y a un petit gastéropode, une sorte de petit bulot beaucoup plus petit qui se développe et qui la mange. Et avant, il était peu présent, maintenant il est beaucoup plus présent, donc ça va s'équilibrer. Donc, c'est pas un drame. C'est pas un drame à long terme, vous voyez. En revanche, on ne veut pas du tout jouer aux apprentis sorciers, et il y a largement quoi faire ici. Autour de Bréa, on a recensé entre 600 et 800 espèces d'algues différentes. Donc il y a largement quoi faire déjà pour contenter tout le monde. Autour de Bas, il y a 850 espèces d'algues recensées. En France, aujourd'hui, l'industrie en utilise à peu près une vingtaine simplement sur ces 800 espèces. Donc il y a encore énormément de choses à faire pour ne serait-ce qu'utiliser le potentiel local. Donc on n'utilisera que des espèces locales. On a commencé à travailler cette année sur des laminaires, tout simplement. On avait la saccharose et on avait la laminaria digitata. Ce sont vraiment les espèces les plus communes du coin. Et il faut savoir que déjà ces espèces-là, ça représente une source de richesse énorme pour les industriels locaux. Voilà. Donc on utilise vraiment le potentiel et la richesse historique, puisqu'on travaille sur les mêmes espèces en fait. Hein. Voilà, dans le lest de mer, on a énormément de laminaires digitata et on travaille sur le même.
Mais à terme, ça ne va pas à la disparition des communes miniers, votre système?
Non. Alors, pourquoi?
Non, mais
ça...
c'est pas un nom franc et massif. Hein.
Non, je vous écoute.
Allez.
Pourquoi? Non. Alors, les algues aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que la culture de l'algue, ça correspond à la demande d'industriels sur des marchés qui sont en fait en devenir. Par exemple, on est en contact avec des gens, des grosses industries de l'agroalimentaire qui sont demandeurs d'algues. Pourquoi? Parce que les algues, ça élargit leur panel. C'est-à-dire que ça élargit la gamme d'ingrédients qu'ils peuvent mettre dans leur préparation, ça élargit les couleurs, on a des textures intéressantes. Et c'est des choses qui aujourd'hui, ils peuvent pas se fournir dans ces algues-là parce que les algues des bois meuniers, en fait, par essence, sont mélangées. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent intégrer. En revanche, sur les applications des algues et des bois meuniers, il y a aujourd'hui tout un marché qui est déjà développé sur l'agriculture. L'agriculture biologique, par exemple, crée un vrai appel d'air sur cette matière-là. Donc ça, c'est effectivement un marché qui est à entretenir. Et nous, on a envie, parce qu'on aura, du fait qu'on va s'équiper pour traiter les algues de culture, on aura la possibilité de traiter des algues de ramassage. Et c'est dans notre intérêt de traiter aussi ces algues-là. Et aujourd'hui, j'allais dire sur le secteur, sans être trop polémique, c'est une ressource qui n'est pas très bien valorisée. Voilà. Donc nous, notre volonté, c'est de pouvoir aussi valoriser ça, parce que, je vais vous dire, encore hier, j'ai été contacté par un bourguignon, chez moi, un éleveur de poulet, que vous connaissez tous, s'appelle Duc. Voilà. Et Duc, il nous a contacté sur deux sujets. Il a dit, mais attendez, moi j'ai... dans le cadre de l'agriculture, comment on appelle ça, diversifiée, je crois, ou intelligente. Aujourd'hui, on fait du fumier de poulet avec tout et n'importe quoi. Moi, je voudrais faire de la litière de poulet avec des algues, parce qu'une fois que les poulets ont fianté sur cette litière-là, ça nous fait un amendement pour les sols qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, par exemple, ça, c'est une filière qui n'est pas valorisée. Et c'est typiquement un débouché que nous, on a envie de développer, avec les algues qui sont des algues de ramassage. Les algues de culture sont à un niveau de prix qui est bien trop élevé pour ça.
Oui, je trouve que c'est intéressant.